explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Il est des voyages qui défient l'imagination et l'entendement. Celui qui consiste à remonter le temps pour comprendre comment tout a commencé est incontestablement de cela. Comment se figurer le néant, le rien? Comment imaginer un temps où le temps n'existait pas? Et comment concevoir que de ce rien, de ce nulle part, figé, ait jailli tant de choses, ces galaxies, ces étoiles, ces planètes, et puis au moins sur une d'entre elles, la vie? Il a bien fallu qu'il y ait un début à toute cette histoire. Alors comment tout cela a commencé? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un grand voyage, le plus grand qu'il soit possible de faire, à la découverte des origines de l'univers.
Le temps d'un bivouac.
Vers l'infini et au-delà!
Sur France Inter.
Bonjour et bienvenue. Comme l'été dernier, comme tous les vendredis, en première heure, nous partirons pour un bivouac cosmique avec comme guide aujourd'hui Christophe Galfard. Bonjour.
Bonjour.
Physicien, passé maître dans l'art de vulgariser les concepts les plus ardus de la physique. Votre dernier ouvrage s'intitule E égale MC2, l'équation de tous les possibles, publié chez Flammarion. Votre précédent livre, qui n'était pas passé inaperçu, L'univers à portée de main, avait connu un immense succès mérité. 1,5 million d'exemplaires vendu dans le monde, traduit dans 20 langues, un vrai best-seller scientifique, et c'est pas si fréquent. Alors je suis ravi de partir avec vous pour ce grand voyage dans l'espace et le temps à la découverte des origines de l'univers. En deuxième heure, retour sur Terre, ou plutôt en mer, avec le skipper-navigateur Armel Lecléache, vainqueur du dernier Vendée Globe, qui nous emmènera dans ses aventures maritimes. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Hugo Struna.
Au commencement, il n'y a rien. Pas de matière, pas d'énergie, ni même de vide, car l'espace n'existe pas. Le temps ne s'écoule pas, car il n'existe pas non plus. Soudain, venu de nulle part, surgit une boule de feu plus petite qu'un atome. Elle est 10 billions de billions de fois plus chaude que le centre du Soleil. C'est l'explosion de ce point, plusieurs millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, qui va engendrer l'univers.
Christophe Galfard, je vous vois sourire. Elle vous va, cette description un peu hollywoodienne de l'origine de l'univers?
Ça donne une petite idée peut-être de la force de ce qui s'est passé à l'époque dans un volume ridiculement petit. Mais c'était absolument pas une boule de feu. Il n'y avait pas de feu, il faudrait de l'oxygène pour ça. Il n'y en avait pas.
C'est la seule chose qu'on peut reprocher à cette façon de présenter les choses, ou elle est plus approximative que ça encore?
Il n'y a rien dans ce qui vient d'être dit qui repose sur une observation quelconque. Ça, c'est une sorte de vraiment vulgarisation à couper le couteau de quelque chose qui est très très incertain. On ne sait pas s'il y avait quelque chose avant, on ne sait pas si effectivement c'est apparu à partir de rien. On ne sait, en revanche, ce qui est absolument correct, en tout cas par rapport aux théories qu'on a aujourd'hui, c'est cette apparition, cette naissance de l'espace et du temps. Rien que ça, c'est assez joli.
Alors qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé? Alors on le situe quand même, 13,8 milliards d'années en arrière.
À quelques jours près.
À quelques jours près, oui, on n'est plus à ça près. Qu'est-ce qui s'est passé?
À ce moment-là,
qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé?
En fait, on a atteint ce point-là dans l'autre sens. On est parti d'observations depuis la Terre, à essayer de comprendre ce que sont ces étoiles et tout ça qui tournent autour de nous. Apparemment, en fait, c'est nous qui tournons à l'intérieur d'elles. Mais c'est à partir de ces observations-là qu'on a réalisé, il y a un petit peu plus de 100 ans, ou un petit peu moins de 100 ans, que nous appartenons à un univers qui évolue. Jusqu'à il y a 100 ans, on pouvait imaginer évidemment des gens qui meurent et qui naissent, des planètes éventuellement qui apparaissent, qui disparaissent, des soleils pourquoi pas et qui meurent, mais que l'univers lui-même puisse avoir une histoire, c'était complètement exclu.
C'est qui le premier qui commence à imaginer cette théorie d'un univers qui n'est pas fixe, qui évolue?
Alors le premier dans l'histoire de l'humanité, j'aurais peut-être du mal à vous répondre, mais peut-être certaines religions ont pensé ça à une certaine époque, mais le premier qui est, disons, utiliser de la science telle qu'on l'appelle aujourd'hui pour arriver à cette idée, idée, c'est un chanoine belge qui s'appelle Georges Lemaître, qui à partir des équations découvertes par Einstein, a réalisé justement que notre univers, en tout cas sur le papier, devrait probablement changer, évoluer. Et c'est quelques années plus tard, des observations qu'il a faites lui et des observations de Hubble qui sont plus connues, parce que les Américains sont quand même meilleurs pour faire part de leurs découvertes que les Belges ou que nous. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les découvertes de Hubble aujourd'hui, mais c'est aussi les découvertes de Lemaître, de Georges Lemaître, qui ont vu que les étoiles lointaines, c'est-à-dire les galaxies lointaines, des amas énormes d'étoiles, s'éloignent tous de nous. Ces amas s'éloignent de nous. En permanence, tout le temps. Et plus ils sont loin, plus ils s'éloignent vite. Et là, on a un petit peu le sentiment, je ne sais pas si vous imaginez, imaginez-vous dans une pièce entourée de plein de gens, et vous voyez tout le monde qui s'éloigne de vous, tout le monde qui s'écarte. La première idée que vous allez avoir, c'est que vous êtes au centre de l'univers, au centre de la pièce, que vous, vous avez quelque chose de spécial. Mais il a été découvert dans les années qui ont suivi qu'en fait, ce n'est pas ça. En fait, chaque personne va avoir toutes les autres personnes qui s'éloignent d'elle. C'est pas que vous qui êtes au centre, c'est vrai pour tout le monde. Tout le monde s'écarte de tout le monde.
Mais ça veut dire que ces personnes, ce sont des galaxies hein, dans votre comparaison, ces personnes en elles-mêmes, elles ne grossissent pas. C'est-à-dire que les galaxies, elles ne grandissent pas. C'est ce qu'il y a autour, c'est l'espace. Vous avez une image qui est assez frappante du gâteau au raisin. Donc les galaxies, c'est les petits grains de raisin. Et en fait, c'est le gâteau qui grossit, qui enfle, hein, comme quand il y a de la levure. Mais par contre, les raisins, eux, ils restent de la même taille sur le gâteau.
C'est pas que qu'ils restent de la même taille, parce qu'ils pourraient grossir ou pas grossir ou diminuer, ça on s'en fiche bien pas mal. Ce qui est important, c'est s'ils bougent ou non. Ouais. Par exemple, cette idée-là de voir les galaxies lointaines qui s'éloignent de nous, on s'est dit au début que ce sont les galaxies qui s'éloignent, et après on s'est dit, bah non, les galaxies en fait elles bougent pas. La seule chose qui change, c'est la distance qui nous sépare d'elles. Pareil dans cette pièce avec tout le monde, vous pouvez imaginer une pièce où tout le monde est finalement figé au sol, et c'est le sol qui va s'agrandir, qui va être comme un élastique qu'on va tirer, et tout le monde va s'éloigner de tout le monde. On a réalisé à ce moment-là que ce ne sont pas les galaxies qui bougent, mais les distances qui s'étirent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expansion de notre univers.
Ouais. Alors, au départ, cette idée d'expansion de l'univers qui va avec le Big Bang, hein, parce qu'effectivement, si on se dit que ça se dilate encore aujourd'hui, c'est qu'on est parti de plus petit. Donc, il y a cette histoire un petit peu de... Voilà, ça explose à un moment. On le voit souvent comme ça, en tout cas, le Big Bang, même si l'explosion n'est pas forcément le bon terme. Mais en fait, le terme Big Bang, au départ, c'était pour réfuter cette théorie, parce que tout le monde n'a pas voulu l'admettre tout de suite.
Mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, même pour nous, là, aujourd'hui, d'imaginer un espace et un temps qui changent, c'est extrêmement compliqué de voir ça dans nos têtes, c'est quasiment impossible. Ouais, on n'en a absolument pas l'intuition, ni le sens commun, il exclut cette idée-là. Et puis les scientifiques ne sont pas exclus d'intuition basée sur notre quotidien ou de sens commun non plus. Donc même Einstein lui-même, avec ses théories, s'est dit, c'est pas possible que cet espace et ce temps bougent. On préfère mille fois un univers qui est tranquille, qui ne bouge pas, qui a un peu été toujours le même et qui restera toujours le même dans le futur. Et voilà, du coup, il a même introduit des termes supplémentaires pour que ça reste fixe. Et à l'époque de Hubble, Lemaître et tout ça, il y a un des scientifiques les plus respectés d'Angleterre, de l'université de Cambridge de l'époque, qui s'appelle Fred Hoyle, avait une vision un petit peu différente de l'évolution de notre univers. Il s'est dit, oui, ok, il grandit, on le voit. Hein, on voit dans les équations, on voit dans les observations que les galaxies s'éloignent. Ben, pourquoi pas avoir des sources, des fontaines, disons, d'espace et de temps d'ici, ici, là, parsemées un petit peu partout, qui alimenteraient cet univers qui s'agrandit. Pourquoi pas? Et du coup, quand cette idée de Big Bang est apparue, d'univers qui aurait commencé à un moment, il a dit, qu'est-ce que c'est que ce Big Bang? Un peu comme, mais qu'est-ce que c'est que ces impressionnistes? Avec un journaliste qui disait ça.
Il a inventé le terme de la théorie, finalement, heureusement qu'il l'a inventé, parce que comme ça, il reste un peu dans l'histoire grâce à cette théorie à laquelle
il a fait d'autres choses qui sont pas mal.
Hein. Évidemment, mais comme tous les scientifiques, il y en a sur certains points, ils ont vu juste, d'autres pas. C'est comme ça que la science avance. Vous nous dites que l'univers grandit en permanence. Est-ce qu'on a une idée de la vitesse à laquelle tout cela grandit?
Alors oui, étonnamment, il suffit d'une certaine manière de regarder la lumière qui nous provient des étoiles lointaines. Vous savez, quand vous êtes dans la rue et qu'il y a une voiture qui passe à côté de vous, elle fait pas le même son quand elle vient vers vous et quand elle s'éloigne. Mmh. Je vous le fais, comme ça. On entend quand c'est aigu, c'est qu'elle est, elle vient vers vous. Mmh. Quand c'est grave, c'est qu'elle s'éloigne de vous. Bon, ben il y a un équivalent avec la lumière. Il y a un équivalent qui est non pas avec un son, mais avec des couleurs. Les couleurs des lumières vont être plus rouges si sa source s'éloigne et plus bleues si la source se rapproche. Mmh. Ça s'appelle un effet Doppler, etc. Maintenant, si vous imaginez que l'univers s'agrandit, ben, ça fait un petit peu le même effet. Même si la galaxie elle-même, elle bouge pas, ça va étirer la lumière et ça va changer la couleur. Donc, en regardant les étoiles lointaines, et en particulier celles qu'on connaît, celles qui ressemblent à des étoiles qu'on a à côté de nous, mm-hmm. et du coup, dont on connaît la luminosité, eh ben, on peut comparer les deux. Et du coup, on peut voir à quel point la lumière est plus rouge ou plus bleue. Et on voit que celles qui sont lointaines sont toutes plus rouges. Et on voit que plus elles sont loin, plus c'est rouge. Et avec ça, on peut déterminer la distance, la vitesse d'expansion de notre univers.
Qui est ?
Justement, c'est assez... Imaginez-vous sur un bateau au milieu de l'océan, d'accord ? La partie de l'océan que vous allez pouvoir voir, elle est contenue à l'intérieur de votre horizon. Vous pouvez pas voir au-delà de l'horizon,
ouais.
D'accord. Ben c'est pareil dans notre univers. On ne peut pas voir au-delà d'un certain horizon cosmique qui est la limite de la distance que la lumière a pu parcourir depuis que l'univers est né, en gros. Eh ben les parties les plus distantes de notre univers s'éloignent de nous à la vitesse de la lumière. Elles peuvent même s'éloigner plus vite que la vitesse de la lumière, mais celles-là on ne les voit même pas. Mmh. Donc il y a une sorte de continu. L'univers n'est absolument pas en expansion entre vous et moi, ou entre nous et la Lune, ou la Lune et nous et le Soleil. Même à l'intérieur de notre galaxie, il n'y a pas d'expansion. Même entre les galaxies qui sont autour de nous, il n'y en a pas. C'est des distances beaucoup plus grandes. Donc en gros, l'expansion peut aller de 0 km par heure à des vitesses beaucoup, beaucoup plus grandes que celles de la lumière.
Plus grandes que celles de la lumière ?
Exact.
On peut aller plus vite que la lumière ?
Ben, on ne peut pas envoyer un signal, du coup. Il y a des choses qui s'éloignent probablement plus vite que la vitesse de la lumière, mais on ne pourra jamais les voir.
Alors, dans vos observations, pour le moment, vous nous parlez de lumière. C'est-à-dire que tout ce qu'on observe, toutes ces déductions qu'on fait, l'univers qui grandit, l'univers en expansion, tout ça, on l'a compris avec nos yeux, ou des choses qui nous permettent de voir un peu plus loin, comme des télescopes, mais on est dans le domaine de la lumière visible. Rien qu'avec ça, on a déjà compris tout ça.
Visible ou invisible, mais lumière, oui. C'est-à-dire que le genre humain existe sur Terre depuis 315 000 ans, comme des découvertes récentes le suggèrent. Ça fait 315 000 ans plus ou moins qu'on ne connaît de l'univers que ce que la lumière nous permet d'en voir. On n'avait pas d'autre outil, on n'a jamais eu d'autre outil, et cet outil est devenu puissant grâce à Galilée et sa lunette qui a permis de rendre des signaux assez faibles plus puissants, et du coup on a pu les voir avec nos yeux. Et c'est effectivement la lumière qui nous a permis de comprendre notre univers en entier.
Ce que vous appelez lumière invisible, c'est-à-dire tout ce qui est onde électromagnétique, mais qu'on ne voit pas, comme les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X, tout ça, ce sont des sources de lumière que notre œil ne capte pas, mais c'est de la lumière invisible. Mais les astrophysiciens n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a d'autres façons d'étudier la prime jeunesse de l'univers. Nous allons voir ça dans un instant avec notre invité Christophe Galfard. Et nous sommes en direct, et pour adresser un message ou une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr, le hashtag bivouacfi sur Twitter ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
قد شفني تضحك وما تسألش بلادك من فين شكل أو لون أو جنس أو دين مش فارقين كلنا بني آدمين ولا في حروب ولا في بيننا
C'était Marée Haute, Valparaiso et Dominica sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter,
je ne sais si nous reverrons jamais le globe terrestre.
Daniel Fievé,
nous sommes transportés dans l'espace.
Le temps d'un bivouac.
Observe.
Et c'était PJ Harvey, hein, ce sera un peu plus tard, Valparaiso, c'était PJ Harvey et Rami et Sam, pardon. On remonte le temps pour s'intéresser à l'origine de l'univers avec Christophe Galfard, auteur de E égale MC2, l'équation de tous les possibles chez Flammarion. Et alors dans les années 60, une découverte majeure est faite, hein, de façon complètement fortuite, c'est souvent comme ça pour les découvertes majeures, par Arnaud Penzias et Robert Wilson. Ça va permettre d'avoir un accès au premier balbutiement de l'univers.
L'objectif d'Arnaud Penzias et de Bob Wilson est d'observer le halo de notre galaxie en détectant les rayonnements invisibles à l'aide de ce radiotélescope. Mais avant de pouvoir commencer, ils sont confrontés à un problème. Le télescope intercepte un bruit parasite, un fond sonore permanent qui empêche les deux hommes de récolter les signaux qui les intéressent. Ils se mettent à chercher la source du signal. Faute de la trouver, ils suspectent tout ce qui les entoure. Ils remplacent les pièces les plus vétustes et délogent même un couple de pigeons du cornet juste au cas où leur déjection serait en cause. Mais le fond sonore persiste.
Que penseront les gens si nous publions un tel résultat? Au début, c'était une nuisance, puis c'est devenu un casse-tête, et pour finir, un embarras.
Après avoir tenté durant un an de localiser la source du bruit, il ne reste qu'une réponse, et elle est sensationnelle.
Nous avons éliminé tout ce qui pouvait provoquer ce bruit. La seule réponse possible était qu'il provenait d'un endroit au-delà de notre galaxie, ce qui était une idée inouïe. Nous ne savions pas quoi faire de ce constat.
La voix de Arnaud Penzias qui ne sait pas quoi faire de ce qu'il observe, comme souvent avec les grandes découvertes, Christophe Galfard, les grandes découvertes inattendues. Au départ, on ne sait pas trop à quel point on a fait une découverte incroyable. Depuis, on s'est rattrapé avec ces ondes. Qu'est-ce qu'elles ont de si important?
Ben c'est amusant parce que au moment où Penzias et Wilson faisaient étaient en train de nettoyer leur télescope du guano des pigeons, il y a dans un laboratoire pas très loin des scientifiques dont Georges Gamow, qui était un type absolument génial, qui avait fait ce calcul et ouais. qui avait prédit que ce grésillement devrait être découvert et écouté. Et ça, même encore à ce jour, disons, c'est le vrai indice que les théories dites de Big Bang sont correctes, ce grésillement-là.
Alors ce grésillement, on l'appelle, il a plusieurs noms, le rayonnement diffus cosmologique, le rayonnement fossile aussi, on l'appelle parfois. On va prendre le temps d'essayer de comprendre de quoi il s'agit.
Imaginez donc un univers qui est en expansion. On part d'une autre aujourd'hui, d'accord? Avec toutes ces étoiles qui sont par centaines de milliards, des galaxies qui sont par centaines de milliards elles aussi, toutes qui contiennent des étoiles et de la matière et du rayonnement partout. Une énergie finalement qui est stockée un petit peu partout, dans tout l'univers, de manière assez diffuse. Et qui s'éloigne, d'accord? Maintenant, on va prendre le temps à l'envers. On va rembobiner, disons, toutes ces galaxies qui étaient lointaines qui se rapprochent, toute cette matière qui était sous forme d'étoiles qui va devenir des nuages de gaz, des énormes nuages de gaz qui vont devenir de plus en plus denses avec l'univers qui devient de plus en plus petit. Vous imaginez bien qu'à un moment, dans le passé, ça devient tellement, tellement dense, il y a tellement d'énergie, de puissance là partout, dans tous les endroits de l'espace, qu'il est fort probable qu'à un moment la lumière ne puisse même plus le traverser. C'est comme si vous allumez une lampe torche à l'intérieur d'un mur, vous n'illuminerez rien du tout. Mais là, c'est pas que la lumière visible par nos yeux, c'est toutes les lumières qui existent, ultraviolets, rayons X, gamma, tout ce que vous voulez, rien ne passe tellement il y a d'énergie. Même les ondes radio, elles traversent pas les murs, rien. À cette époque-là, rien du tout. Trop d'énergie. L'univers était opaque. Donc ça, c'est une prédiction de théorie d'un univers qui évolue, expansion, à l'envers, qui rapetissit et tout ça. Maintenant, si on le refait dans l'autre sens, on part de cet univers extrêmement dense qui grandit, eh bien, il y a un moment où il va être suffisamment dilué pour devenir transparent. Et donc, il y a un moment dans l'histoire de notre univers où tout d'un coup, la lumière a pu traverser l'univers. Et cette lumière-là, il n'y a plus eu de mur, elle a pu voyager depuis. C'est cette lumière-là, ce rayonnement fossile, si vous voulez, que Penzias et Wilson ont réussi à capter avec leur télescope.
Ce sont les toutes premières lueurs de l'univers, c'est ça ce rayonnement fossile finalement. C'est le moment précis où l'univers s'allume.
Exact, enfin s'allume, est devenu transparent. C'est le moment précis où on peut voir à travers notre univers.
La première photo.
Exactement, et cette première photo, on l'a. On a réussi à l'apprendre. Ouais. C'est, aujourd'hui, on a des télescopes dans l'espace. Au début, il y en avait un qui s'appelait WMAP. C'est un drôle de nom, mais un acronyme. Et le dernier, il s'appelle Planck, en l'honneur du scientifique Planck qui a découvert la physique quantique il y a à peu près 100 ans. Et on a une des cartes extrêmement détaillées de cette première lueur de notre univers.
Et alors ça nous fait remonter jusqu'où? C'est-à-dire on est à quel moment du tout début quand on a la première photo de l'univers?
Vu depuis nous ou vu depuis un temps zéro?
Faites-le comme vous voulez, comme ça vous semble plus simple.
Alors vu de chez nous, c'était les estimations, c'est que c'est à peu près 13,7 milliards d'années de nous, d'accord, dans le passé.
Et si on imagine qu'il y a un temps zéro où tout était en un seul point, par rapport à ce point, combien d'années?
270 000 ans.
270 000 ans, donc on a quand même une photo de l'univers dans sa prime jeunesse.
Ah oui.
270 000 ans. On comprend évidemment que les scientifiques s'enthousiastent pour
ces... C'est la sortie de la natalité, ça.
Oui, mais alors comment on fait pour aller au-delà? Évidemment, on veut toujours remonter un peu plus loin. Donc si on veut aller après cette barrière des 270 000 ans, est-ce qu'on dispose encore d'outils à ce moment-là? On n'a pas la lumière, on a compris, on ne peut pas encore s'appuyer sur la lumière ou n'importe quelle onde électromagnétique.
Il y avait de la lumière à l'époque, mais elle faisait un micromillimètre avant d'être absorbée par autre chose. Donc elle est là, mais on n'y a juste pas accès. C'est pas pour nous et on la verra jamais. Donc il nous faut trouver autre chose. Un, pour vérifier ce qui se passait avant. Ça, c'est déterminer comment se comporte la matière dans des énergies colossales. Et ça, vous en avez quelques endroits sur Terre où on fait ça, dans les accélérateurs de particules. Mais si on veut avoir une observation directe, si on veut lever les yeux vers le ciel et voir au-delà de ce mur qui nous sépare de l'opacité et de la transparence de notre univers, il nous faut des méthodes. Alors on en a deux, disons. Une, c'est de trouver des particules qui n'interagissent avec rien, qui traversent tout. Et ça, il se trouve qu'il y en a. On en connaît. Ça s'appelle des neutrinos, par exemple, peu importe ce que ce soit. Mais le problème, c'est que justement, elles n'interagissent avec rien. Alors du coup, vous pouvez mettre un détecteur aussi grand que vous voulez, il passe au travers, le détecteur, il
parce
fait rien.
Parce qu'à un moment, pour détecter, il faut interagir, parce que sinon, on ne voit pas qu'il y a quelque chose qui est passé.
Exactement.
On comprend bien. Il y a un autre type d'onde qui permet d'aller au-delà de ces 270 000 ans, détecté très récemment par les scientifiques, et ça devrait permettre d'en savoir plus. Souvenez-vous, c'était l'année dernière, c'est tout récent. Et Florence Paracuellos, dans son journal de 18h sur France Inter, prenait la mesure de l'événement, elle était à fond.
Attention, révolution, ça y est, des physiciens ont détecté les ondes gravitationnelles dont Einstein parlait il y a 100 ans.
Le journal de 18h sur France Inter.
C'est donc une journée historique pour la physique, une journée qui consacre l'intuition d'Albert Einstein il y a 100 ans. Il avait théorisé les ondes gravitationnelles, les voilà donc détectées scientifiquement. Alors pour essayer de faire simple, visualiser la surface d'un étang sur lequel on aurait jeté une pierre, cela provoque des ondes. Et bien à l'échelle de l'univers, le phénomène se produit également lorsque des objets de grande masse s'entrechoquent, comme les trous noirs par exemple, ils laissent des ondes derrière eux. Ce phénomène pourrait ainsi permettre de remonter à la première milliseconde du Big Bang. C'est donc le Graal qu'ont enfin trouvé et annoncé plusieurs équipes scientifiques.
On était le 11 février 2016.
C'est une belle journée.
C'est une belle journée hein, pour les physiciens et Florence Paracuello s'en rend compte. On sent qu'elle a pris la mesure de l'événement. C'est une véritable révolution, la détection de ces ondes gravitationnelles. Alors, il faut que vous nous aidiez à partager votre enthousiasme.
Je vais vous dire un truc, c'est par rapport à ce 11 février. C'était tellement extraordinaire que j'avais appelé quelques chaînes et quelques tout ça pour qu'ils en parlent et je leur ai dit écoutez, je sais bien qu'il y a un remaniement ministériel aujourd'hui que vous annoncez aujourd'hui, mais le remaniement ministériel, honnêtement, dans 3 semaines on l'aura oublié. Les ondes gravitationnelles détectées aujourd'hui, dans 10 000 ans on se souviendra de cette date. Et c'est à ce niveau-là, je pense, de découverte de nouvelles outils.
Alors faut que nous en disiez plus. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Pourquoi c'est si important que ça?
Parce que vous avez dit tout à l'heure que depuis, en gros, la naissance de l'humanité, on n'avait qu'un seul outil pour observer l'espace, qui était la lumière. Là, c'en est un autre. Je vous donne juste un exemple. La lunette de Galilée nous a permis, en une première observation, de découvrir qu'il y avait des lunes autour de Jupiter et des cratères sur la Lune. Ça veut dire qu'en gros, 2000 ans de croyances cosmiques, à savoir que la Terre était au centre, que tout était sphérique ailleurs et que tout tournait autour de la Terre, etc., volatilisé en 2 secondes, en une observation. Là, on a un outil qui n'est pas la lumière, qui nous permet de détecter des vibrations dans l'espace et le temps. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une onde qui va vous traverser, vous, et il y en a, là, je vous le dis, qui vous traverse, votre taille change et la vitesse à laquelle votre montre fait tic-tac change aussi. Même la façon dont vous vieillissez change. C'est le vrai temps et le vrai espace qui changent lorsque ces ondes vous traversent. Et ça, c'est extrêmement difficile à détecter. C'est ça qu'ont réussi l'équipe de LIGO ou LIGO aux États-Unis avec Virgo en Italie. Mais malheureusement, Virgo était éteinte ce soir-là.
Ah, bon voilà, on est encore passé à côté. À côté de l'événement des 10 000
Mais ce sont évidemment des découvertes qui mettent en jeu les compétences de centaines de personnes sur des dizaines et des dizaines d'années pour essayer de fabriquer, ça c'est une aventure extraordinaire, d'essayer de trouver le moyen de détecter ces ondes-là. Comment vous allez faire pour voir une onde qui passe à travers vous et qui en gros change d'un millième de la taille d'un atome votre taille. Ouais. C'est quand même extrêmement compliqué. Si vous étiez à côté de la collision des trous noirs qui a été détectée, votre taille aurait changé entre 13 et 20%. Donc là, c'est quelque chose qui se voit vraiment. Bah, donc je ne sais pas si vous imaginez l'énergie qu'il faut pour détordre, pour tordre l'espace et le temps, je répète, hein, espace, le vrai là, et le temps de notre montre, pour tordre ça. En gros, la détection qui a été faite, la première là, qui avait été annoncée en février, c'est l'équivalent de, en 20 microsecondes, donc 20 millionièmes de seconde, de 50 fois l'énergie dégagée par toutes les étoiles de l'univers.
Bon, si vous vouliez nous donner le vertige, c'est réussi. Je suis pas sûr de tout bien me rendre compte.
Alors, c'est énorme.
Si on veut concrétiser un peu tout ça, ces ondes gravitationnelles, moi ça m'a surpris un peu. Peut-être que vous pouvez m'expliquer comment on fait ça. Elles ont été transposées en ondes sonores. Et ça donne ça. Bon, vous nous expliquez comment...
C'est un peu en contraste avec ce que j'étais en train de dire d'explosion gigantesque. Oui, et ça, c'est un petit bip, un petit cucu d'oiseau. Cette onde qui va vous traverser, c'est un petit peu comme les vagues d'un bateau. Vous pouvez, elles arrivent soit une fois, une par seconde, soit une toutes les 10 secondes, soit très vite. C'est à une certaine fréquence. Et là, cette onde qui a été détectée a une certaine fréquence. C'est-à-dire qu'on voit les hauts, bas, hauts, bas, hauts, bas, hauts, bas, qu'on peut traduire en un son, c'est ce que vous entendez là. Mmh. Ça, c'est en temps réel, le passage.
Et alors, en captant ces ondes, on va pouvoir remonter jusqu'où cette fois-ci vers les origines de l'univers.
Il n'y a pas d'ombre avec les ondes gravitationnelles. Elles traversent tout, sauf peut-être les trous noirs, mais elles traversent tout. Elles traversent tous les murs, toutes les énergies, tout. Elles passent au travers. Il n'y a pas de mur, donc il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, on peut tout voir. Donc a priori, on pourra, lorsque la technologie nous le permettra, traverser ce mur opaque qui est au fin fond de l'univers visible pour aller regarder derrière avec autre chose que la lumière, en utilisant ces ondes-là qui pourraient nous permettre de remonter directement le temps plus en avant.
Oui. Jusque au prochain mur, le mur de Planck. Et si l'on partait bivouaquer au pied du mur de Planck dans un instant sur France Inter?
Marée haute du ressentiment, visage émacié sur la digue. Que faire de sa colère? Que faire de sa fatigue? Fable validée sous serment, marée haute. Tu y croyais comme l'enfant peut croire. À qui la faute? Alors va pour la partager, mais en être accablé à d'autres. Marée haute. Traîtrise des roses, marée haute. Chemise noire. Délavé. Quelle idée aussi de lutter quand le vent va d'un seul côté. Regard perdu sur la digue. Les récifs donnent sans compter. Naufrage, naufrage. Ton âge t'y a préparé. Naufrage. Combien pour t'y pousser? Traîtrise des roses, marée haute, commençait déjà de trembler. Largué, mais c'était pas ta faute. Lesté de plomb qui peut flotter. Marée haute. Visage tendu sur la digue. Et mains à paume retournée. Faut-il alors dur le confier? Le sacrifier. Oh marée brune, marée haute, par le naufrage soulevé.
Cette fois-ci, c'est bien eux, Valparaiso et Dominica, marée haute sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Si Einstein a raison, ou si la relativité générale est exacte, ça veut dire que l'univers est en expansion, d'accord?
Oui.
Ok, alors, si on inverse le cours du temps qui passe, alors l'univers diminue.
Exact.
Donc, imaginons que j'inverse tout le processus jusqu'au départ, jusqu'à voir ce qui se passe au commencement du temps.
Au début du commencement du temps?
Oui. Tu vois, l'univers n'arrêterait pas de diminuer, il gagnerait en densité, en chaleur, et nous serions...
Tu parles de remonter le temps.
Un extrait du film Une merveilleuse histoire du temps qui raconte la vie de Stephen Hawking. Là, il est en train de galéger avec sa douce, en train de remonter le temps. Vous le connaissez, hein, Christophe Glaffard, Stephen Hawking. On le présente plus, mais c'est le grand physicien de notre époque, américain, qui est dans un fauteuil roulant, mais qui a découvert, qui a beaucoup travaillé sur les trous noirs. Et vous avez fait votre thèse avec lui.
Exact. Alors, par exemple, pour vous donner une idée de la mesure du personnage, on sait qu'il y a un problème à l'origine de notre univers, un Big Bang comme on se l'imagine dans la tête grâce à lui. C'est lui qui, à la fin des années 60, a écrit un théorème qui expliquait ça. C'est lui qui aussi, dans les années 80 ou 84, si je ne me trompe pas, a pour la première fois dans l'histoire de l'humanité donné une possible équation mathématique qui permet de proposer une naissance à notre univers à partir de rien du tout. Et il est assez connu parce qu'il a fait publier, peut-être par provoque, ce papier-là dans les annales du Vatican.
Ah oui.
Et à la fin du papier, les annales du Vatican ont accepté, hein, ce qui est quand même joli. Et à la fin du papier, il a marqué « Mais où donc reste-t-il de la place pour Dieu ?» Et c'est, je trouve ça très chouette de la part du Vatican d'avoir accepté de publier ça.
Alors, on est, depuis le début de cette émission, en train de se rapprocher de plus en plus du temps zéro, du début des origines de l'univers. On parlait de ce mur indépassable, mur de Planck, mais juste avant d'y arriver, il y a cette période où les physiciens sont en train de se rendre compte, et ça aussi c'est une découverte assez récente, qu'au tout début, l'univers non seulement était en expansion, mais de façon particulièrement rapide et accélérée.
Alors, ouais, pour situer les deux murs, parce qu'il y a le mur où l'univers est devenu transparent, ouais. Et puis loin, à peu près à zéro, hein, le mur de transparence, c'est à 300 000 ans, disons, après zéro, et le mur de Planck auquel vous venez de faire allusion, c'est quasi à zéro.
Ouais.
C'est vraiment au tout début, on n'y a pas accès encore.
Quelques fractions de secondes, on ne sait pas ce qui se passe, quelques fractions de secondes après le mur de Planck.
Il y a 43 zéros, c'est 0,00043 une seconde. Donc
c'est là qu'est l'essentiel aussi, dans cette fraction de secondes.
Peut-être bien, mais il y a des problèmes, si vous voulez, dans notre compréhension de ce qu'on voit dans l'espace. Par exemple, imaginez que vous êtes ici à Paris, un soir, vous prenez un télescope, que vous regardez au-dessus de votre tête vers les étoiles lointaines, et en particulier vers ce fond diffus cosmologique, là, cette température, cette première lumière qui nous arrive de l'univers. Maintenant, vous allez être de l'autre côté de la Terre, pile de l'autre côté, et vous regardez pile au-dessus de votre tête à nouveau, et vous allez voir que c'est à peu près la même température. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune raison, surtout aucun moyen, que ces deux endroits aient jamais communiqué dans leur vie, dans l'existence de l'univers. Ils sont trop loin l'un de l'autre. Nous, on voit d'un côté ce qui a 13 milliards d'années, voilà, de l'autre 13 aussi, ce qui fait que pour que les deux communiquent ensemble, il faudrait qu'il y ait 26 milliards d'années pour faire la distance. Or, notre univers n'a pas cet âge-là, donc c'est pas possible qu'ils aient jamais communiqué.
Alors,
pourtant, c'est les mêmes.
Comment on résout cette...
Eh ben, il y a des gens comme Alan Guth ou Andrei Linde dans les années 1980 qui se sont dit, si ça se trouve, au tout début de notre univers, il y a eu une période où une force existante était là. C'était avant que la matière existe, c'était avant que la lumière existe. Il y avait comme ça une sorte de mer qui englobait tout, même si le tout était tout petit. Une mer qui était englobée tout, une mer d'énergie qui a repoussé l'espace et le temps à une vitesse inimaginable, incroyablement plus rapide que la lumière, et qui a éloigné ce qui était proche. Ce qui fait que les choses qui sont éloignées aujourd'hui et qui ne peuvent pas et n'ont pas pu communiquer depuis, à l'époque, étaient en contact et pouvaient être en équilibre. Mmh. Cette idée, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Il y aurait comme ça ce qu'on appelle un champ en science, une sorte d'énergie qui flotte partout, qui serait responsable de l'expansion accélérée de notre univers au
Donc,
tout début.
L'expansion, c'est toujours valable, mais il y a au début de la phase d'expansion, en plus une phase d'inflation, qui fait que l'expansion est accélérée.
Voilà.
Pour essayer de résumer un peu ce scénario que vous nous dessinez petit à petit au fur et à mesure du moment où on remonte. Et puis ensuite, on arrive donc à ce mur de Planck, à cette limite où vraiment là, plus aucun outil ne nous permet d'aller. Et donc là, on est, comme vous le disiez, à quelques fractions de secondes du tout début du temps zéro. Et là, on est sûr de ne jamais réussir à dépasser cette limite-là et de savoir ce qu'il y a avant.
Ce qu'il y a, c'est que on a des théories qui sont extrêmement humbles. C'est-à-dire que nos théories elles-mêmes nous disent que, là, c'est plus la peine d'essayer de m'utiliser, je ne sers plus à rien, il y a trop d'énergie. Et par exemple, on a deux théories pour essayer de comprendre notre univers tout entier. Il y a une théorie du très grand, qui est la gravitation, c'est Einstein et tout ça, et une théorie du très petit, qui est ce qu'on appelle la théorie quantique. Et malheureusement, les deux n'ont pas la même notion de l'espace, du temps. Il y a plein de choses qui ne marchent pas lorsqu'on essaie de mettre les deux en même temps. En général, on s'en fiche bien pas mal, parce que le petit et le très grand, de fait, sont distincts. Mais si vous imaginez que vous rétrécissez l'univers tout entier dans un truc très petit, vous avez le très grand qui devient très petit, et donc vous avez nécessairement besoin d'une théorie qui englobe les deux.
Que l'on n'a pas encore.
Que l'on n'a pas encore, qui s'appelle la gravitation quantique.
Mais cela est peut-être une autre histoire. Allez, pour se reposer un peu les neurones, je vous propose de faire un petit tour dans les salles obscures avec Jérémy Querené, qui fait son retour dans le temps d'un bivouac, tout l'été, en partenariat avec le CNES, l'agence spatiale française. Il nous parlera de films de science-fiction qui ont mis en scène des explorations spatiales, et on commence avec un monument du genre.
Sorti en 1968, en pleine guerre froide, et un an seulement avant les petits pas d'Armstrong sur la Lune, 2001, l'Odyssée de l'espace fait partie de ces films qui ont marqué l'histoire du cinéma et marqué un genre, un de ces films précurseurs que les suivants ne peuvent pas ignorer. Un équipage en hibernation, un vaisseau blanc et bien rangé, un ordinateur intelligent plus ou moins bienveillant, des extraterrestres plus ou moins bienveillants, du suspense et un profond sentiment de solitude. Avant d'être partout ailleurs, ces éléments étaient déjà dans le film de Kubrick.
Il y a 18 mois, a été découverte la première preuve formelle de l'existence d'une forme de vie intelligente extraterrestre. C'est un monolithe noir enfoui à 15 mètres sous le sol lunaire, près du cratère Tycho.
L'histoire de 2001, l'Odyssée de l'espace, peut être racontée simplement. En gros, c'est une énième rencontre entre humains et extraterrestres. Sauf que cette rencontre a lieu d'abord avec nos ancêtres préhistoriques, sauf que les extraterrestres se manifestent sous la forme d'un monolithe noir, une forme lisse et trop géométrique pour être naturelle, sauf qu'on ne saura jamais vraiment qui sont ces visiteurs, sauf qu'on ne comprendra vraiment jamais ce qui se joue entre eux et nous. Bref, c'est une énième rencontre, oui, mais c'est la plus mystérieuse et la plus singulière.
Oui, le plus étrange, c'est l'existence de preuves indiscutables que cet objet n'a pas été recouvert par un processus géologique. Il semble qu'on l'ait enfoui dans le sol volontairement.
Volontairement ?
Qu'est-ce qui prend un peu de café ?
Oui, je veux bien.
Non, moi aussi.
Cet étrange monolithe est une belle métaphore de notre curiosité naturelle et humaine. Celle qui nous pousse à innover continuellement, à faire des sciences, à entreprendre des voyages, tant qu'il reste des destinations inconnues. Le monolithe, en effet, a la fâcheuse tendance à s'éloigner aussi vite qu'on s'en approche. Il est d'abord sur Terre, puis sur la Lune, puis dans la banlieue de Jupiter, puis au-delà de notre système solaire. Et à chaque fois, donc, il repart un peu plus loin, nous laissant avec plus de nouvelles questions que de réponses.
Et l'homme, il est mort pourquoi ? Et après, on va où ?
Oser poser la grande question de nos origines dans un film de science-fiction, c'est tentant, bien sûr, mais c'est risqué aussi. D'autres cinéastes s'y sont essayés depuis, citons Brian De Palma avec Mission to Mars ou Ridley Scott dans Prometheus. Là aussi, le voyage spatial vers des contrées lointaines a pour but de trouver des réponses à des questions finalement bien terrestres, très humaines. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ?
Votre question semble impliquer que je sais ce que vous espériez accomplir en venant.
Ce qu'on voulait accomplir en venant, on voulait une réponse, rencontrer le Créateur.
Le problème de ces films, c'est qu'ils osent apporter des réponses. Dans Mission to Mars, la vie sur Terre est une importation génétique de Martiens qui vivaient sur la planète rouge avant qu'elle ne devienne invivable. Plus gênant scientifiquement encore, dans Prometheus, l'humain est un descendant direct de grands et forts extraterrestres, des cousins moins embarrassants et plus avancés technologiquement que ces andouilles de grands singes.
Vous pouvez prouver ce que vous avancez ? Parce que pardon, mais si vous voulez enterrer 3 siècles de darwinisme, c'est...
Tous ces films mettent aussi en scène une belle idée, celle que la question de nos origines est une question de civilisation, certes, mais aussi une question personnelle. Mission to Mars, comme Prometheus, se termine avec le départ en solitaire d'un astronaute vers une destination inconnue, bien décidé à aller papoter avec nos ancêtres. Et à sa façon, la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, illustre la même chose. Après sa rencontre avec le monolithe, le commandant Bowman voit littéralement sa vie défiler, mais sa vie future, et au moment de mourir, il retourne au commencement, il redevient un fœtus qui flotte dans l'espace et retourne tranquillement sur Terre. Alors là, je ne me risquerai pas à interpréter cette image du fœtus astral qui clôt le film, une image en tout cas qui lie la question de notre origine et de nos origines.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu.
Au revoir plutôt, Jérémy que René, puisqu'on vous retrouve vendredi prochain. Vous pouvez en attendant évidemment retrouver la chronique de Jérémy sur le site du CNES, CNES.fr, partenaire de nos bivouacs cosmiques tout l'été. Christophe Galfard, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un film qui vous a marqué?
Ah oui, exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Et il y a cette liberté qui est donnée aussi aux spectateurs de projeter ses propres fantasmes sur ces idées-là, et ça, j'adore.
Ouais. Vous avez un goût pour la science-fiction de façon générale?
Pour quand c'est intelligent comme ça, oui.
Ah, vous aimez bien raconter des histoires. Vous-même, vous êtes l'auteur du Prince des Nuages. Une trilogie, c'est une histoire pour les enfants. Donc, vous aimez bien qu'on raconte.
Ah oui, j'adore.
Vous aimez bien qu'on raconte des histoires. On va continuer de s'en raconter quelques-unes sur les origines de l'univers dans un instant avec vous dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
J'ai peur de couver quelque chose, disait la terre, à l'archange du Père éternel. On m'a mis des hommes sur le dos et ça me démange, disait la terre. Pitié pour le petit personnel, dites au grand patron qui se dérange, j'ai des misères. J'ai peur de la sale migraine. Je tourne encore mais je tourne à la catastrophe, disait la terre. Alors que tous les supérieurs se ramènent et les hommes chantaient, on a mangé des tonnes de viande, picolé des tonnes de tonneaux. Combien d'orgasmes on se demande a-t-on atteint? Liste et leur riserie, si on veut l'être aussi, on fait tout ce qu'il faut pour ça ici. Combien de guerres brûlantes en tout a-t-on éteint? T'arrive petite, disait le père à la terre. C'est un léger malaise, ma belle. Tous ces brigands aveugles et sourds faiseurs d'histoire, princes et bergères, ce sont nos enfants, je te le rappelle. Moi, c'est les gambettes qui me démangent, disait le père. Dansons et oublie ta sale migraine. La chance qu'on a de valser comme ça à l'infini, là dans les airs. Allez, que toutes les planètes se ramènent.
C'était Michel Jonas, La Terre et le Père sur France Inter dans le temps d'un bivouac. La programmation musicale est signée Djoubaka.
Écoute, je crois avoir trouvé la connexion entre l'énergie et la masse, si j'ai raison. Alors l'énergie et la masse ne sont pas absolues, ne sont pas distinctes. Et elles peuvent être transformées l'une en l'autre. L'énergie peut devenir masse et la masse peut devenir énergie. Mais il est faux de croire que l'énergie est égale à la masse. L'énergie, écoute bien ceci, est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré.
Si tu veux, je peux revérifier tes calculs.
C'était un extrait du film E égale MC2, une biographie de l'équation. Christophe Galfard, le dernier livre que vous signez chez Flammarion s'intitule E égale MC2, l'équation de tous les possibles. Pourquoi avoir mis cette équation au cœur, au point de départ de tout votre ouvrage?
C'est quand même l'équation la plus connue de toutes. Dans mon bouquin, le précédent, et dans ceux de Stephen et d'autres, de Stephen Hawking, pardon, et d'autres scientifiques, on dit toujours, bon, on va pas utiliser d'équation sauf E égale MC2, vu que c'est tellement, elle est tellement connue que ça devient un mot presque plus qu'une équation. Bah, j'ai voulu expliquer ce mot.
C'est ça, parce que tout le monde la cite. Je pense que si on fait un micro-trottoir, on demande dans la rue, je pense qu'énormément de gens sont capables de la citer, cette équation. Mais alors, si on leur demande d'expliquer ce qu'il y a derrière, c'est peut-être déjà un peu plus compliqué. Alors, ça mérite quelques explications.
Cette équation, c'est marrant parce que il y a à peu près 100 ans, elle marque une sorte de passage entre ce qu'on connaissait de la réalité avant et après. C'est à peu près il y a 100 ans qu'on a réalisé que la réalité qui nous entoure est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste que celle qu'on arrive à détecter avec nos sens. De même qu'il y a ces rayons X ultraviolets que nos yeux ne peuvent pas voir, il y a d'autres choses qui sont autour de nous que nos sens ne peuvent pas percevoir. Et E égale MC2, c'est le drapeau qui signale l'entrée dans cette nouvelle ère de l'humanité qui va au-delà de ses sens. E égale MC2, les lettres, je pense que la plupart des gens les connaissent, le E c'est pour énergie, M c'est pour masse, et C c'est la vitesse de la lumière qui est au carré, comme on vient de l'entendre dans le petit extrait. Et ce qui a donc en gros, c'est un taux de change. On peut transformer de la masse en énergie, de la masse et de l'énergie en masse avec le taux de change qui est la vitesse de la lumière au carré. En gros, si vous prenez un dollar qui est de l'énergie et un euro qui est de la masse, pour un euro, vous avez, si je me trompe pas comme ça là de tête, environ 90 000 milliards de dollars. Donc ça vaut le coup d'essayer de transformer de la masse en énergie. C'est ce qui est utilisé dans les centrales nucléaires, malheureusement dans les bombes atomiques aussi. Mais on peut aussi la voir d'une autre manière, cette équation. Parce que c'est grâce à cette transformation d'énergie en masse que toute la matière de notre univers, y compris celle qui est dans votre corps, dans le mien, partout, de ce qu'on respire, de la Terre, de tous les objets, est apparue juste après cette période d'inflation dont on parlait tout à l'heure, grâce à E égale MC2. Mmh. Vous avez cette énergie colossale qui est autour et qui devient matière au début de notre univers.
Alors c'est vrai que ça, on l'a pas dit, dans le scénario, les briques qui nous composent, elles arrivent pas tout de suite, elles arrivent, on est quoi, 300 000 ans après le Big Bang, le point de départ.
Alors ça dépend à quel ordre de grandeur vous vous situez, parce on est constitué de plein de choses, nous. Les atomes, ce qu'on connaît plus ou moins bien, c'est une sorte de noyau avec des électrons qui tournent autour, ça on se le représente assez bien. On en connaît une centaine qui existent dans la nature, et les deux plus petits étaient présents et formés au bout de 300 000 ans lorsque l'univers est devenu transparent.
Ça c'est l'hydrogène.
L'hydrogène et l'hélium. En gros, les atomes plus gros comme le fer, l'oxygène, le carbone sont fabriqués par les étoiles. Ouais. C'est grâce à E égale MC2 aussi que cette matière est fabriquée dans les étoiles.
C'est pour ça qu'on dit que nous sommes des poussières d'étoiles.
Exact.
Mais ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est que les atomes d'hydrogène, parce qu'on en a dans notre corps, une partie de ce que nous sommes est fait d'hydrogène. Ce sont des atomes vieux de 13,7 milliards d'années.
Exact. À moins qu'il y en ait certains qui aient eu un petit parcours différent. Mais pour la plupart, c'est ça. Pour la plupart, c'est ça. Ça a été créé au départ. Les particules qui sont même à l'intérieur de ces atomes-là sont légèrement plus vieilles encore. Et elles sont devenues stables à peu près il y a 13,78 milliards d'années. Ouais, c'est joli de savoir qu'on est si vieux.
Oui, c'est joli. ça fatigue.
Non, mais
déjà.
Ça donne quand même un petit peu cette notion qu'il existe des choses en nous qui vont traverser le temps et que nous, on appartient à une certaine époque, mais on fait partie de quelque chose de plus grand.
Après nous avoir emmenés dans ce grand voyage dans le temps à la quête des origines, Christophe Galfard, est-ce que vous, dans vos travaux, quand vous réfléchissez à ces questions, vous vous sentez un peu explorateur, aventurier?
C'est pas qu'un peu. C'est-à-dire que, si vous voulez, sur Terre, il n'y a plus tellement d'endroits où on n'a pas été. Il en reste, évidemment, le fond des océans, c'est un exemple. Mais en gros, à la surface de notre planète, c'est rare de fouler du pied un endroit où vierge d'une présence humaine. Ça n'arrive quasiment plus. En revanche, l'univers tout entier est colossal. Il y a deux manières, du coup, de l'explorer. Il y a par la détection, et il y a par la pensée. Par la pensée, vous pouvez aller dans des territoires inexplorés. Vous pouvez aller au-delà du mur de Planck. Vous pouvez aller dans des univers parallèles. Vous pouvez aller réfléchir, voyager sans bouger dans des univers qui sont au-delà de l'entendement quasiment. La beauté de cette recherche-là, on en parle souvent, mais elle est tellement grande que c'est foudroyant quasiment.
Qu'est-ce qu'il faudrait, on a 20 secondes, hein, mais qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à tout ça pour aller un peu plus loin encore? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris, qu'il faudrait avoir compris bientôt pour résoudre l'énigme?
Comme on dit, prédire quelque chose est difficile, surtout quand il s'agit du futur. Mais c'est compliqué de savoir exactement qui parmi les enfants d'aujourd'hui sera la personne qui. Il nous manque peut-être quelqu'un qui a une vision à la Einstein ou à la quelqu'un d'autre, ou un ensemble de personnes qui découvrent quelque chose d'un coup pour nous permettre de mieux comprendre cet univers encore que nous. Diront, j'en ai absolument aucun doute, explorer bientôt physiquement.
Ah ouais. Merci Christophe Galfard. Je rappelle le titre de votre dernier livre, E=MC2, l'équation de tous les possibles. C'est paru chez Flammarion. Merci à vous.